Donc je voudrais revenir sur le premier exemple, la petite fille qui recopie sur sa voisine, vous savez, en maternelle. Et c'est vrai que vous avez dit qu'elle n'entre pas dans la tâche. Finalement, comme la tâche, c'est de remettre les mots dans l'ordre et que sa voisine, elle a déjà mis les mots dans l'ordre, finalement, elle a fait la tâche, quoi. Je suis pas sûr qu'elle ait vraiment passé à côté de la tâche elle-même. Par contre, je suis d'accord sur l'enchaînement des tâches. Elle n'a pas compris l'enjeu général, mais sur ce passage précis, elle a fait le travail, qu'elle le recopie sur sa voisine ou pas. Voilà. Je voulais juste vous dire ça. Et la vraie question, parce que j'ai bien compris qu'il faut que l'enseignant passe au registre supérieur, la vraie question qui m'intéresse moi en tant qu'enseignant, c'est comment on fait ? Comment on fait pour passer au registre supérieur quand la plupart des élèves n'arrivent pas à y accéder, quoi ? C'est-à-dire que concrètement, qu'aurait dû faire la maîtresse dans la classe de maternelle qui aurait pu permettre à la petite fille de réussir cette activité telle qu'elle était attendue ?
Je vais donner les éléments de réponse. Enfin, je vais commencer par là. Après, je vais dire aussi d'autres choses. Il y aurait des choses qui sont... Vous voyez, là, on se trouve dans cette situation avec ce qui est devenu aujourd'hui la forme scolaire dominante à l'école maternelle, c'est le travail en atelier. Avec, comme l'enseignant, qui est souvent une enseignante, ne peut pas être dans tous les ateliers à la fois, il y a des ateliers qui sont l'objet de son attention principale et des ateliers qui sont l'objet de son attention seconde. Mais c'est pour ça que je reviens là-dessus, parce que cet exemple-là et la thèse de Christophe Joigneux dont il est tiré, et au passage, ouais, Christophe a dépouillé des revues professionnelles d'enseignants d'école maternelle, qui, quand on dit que c'est la forme sociale dominante à l'école maternelle aujourd'hui, c'est pas simplement parce qu'on l'a observé dans 10 classes. C'est parce que quand on regarde la littérature professionnelle, on voit que c'est la forme dominante qui s'impose. Quand on regarde les fiches, c'est les principales ressources professionnelles adressées aux enseignantes relèvent de cela. Alors, donc il y a déjà la possibilité, on est vigilant. Enfin, moi, j'ai envie de dire que les chercheurs ont comme responsabilité sociale de pointer des questions sur lesquelles il est nécessaire d'être vigilant. Je reviendrai après là-dessus. Je pense que si on fait ça, c'est déjà pas mal. D'être vigilant sur le fait que l'obtention d'un résultat ne garantit en rien l'effectuation du travail intellectuel au sens le plus large, supposé nécessaire pour produire le résultat. Et que ça renvoie à des nécessités d'encadrement. On appelle ça de cadrage de l'activité des élèves qui, sur les enjeux les plus essentiels, ne soient pas à distance. Et que ça suppose de hiérarchiser les enjeux d'apprentissage ou les enjeux comportementaux, et sur ces enjeux-là, d'être le plus possible dans du pilotage, dans du cadrage extrêmement fort, extrêmement suivi, sur les enjeux d'apprentissage. Or, ce qu'on observe, c'est de manière récurrente, mais je vais revenir sur votre... J'évite pas la question. On observe de manière récurrente aussi que, avec les élèves les plus faibles, on a un cadrage très fort sur les enjeux comportementaux et les tâches les plus formelles, et un cadrage très faible sur ces changements de registre que j'évoquais, ces phénomènes de dénivellation, de secondarisation, etc., qui sont la plupart du temps laissés aux seuls élèves. Alors, donc, ce qui veut dire que, de ce point de vue-là, pour la question, et souvent des choses, des petits gestes professionnels, permettent, non pas de faire des miracles, je ne suis pas sûr que les miracles existent, mais de mieux cadrer l'activité, et qui peuvent être de demander aux élèves, qu'est-ce que tu penses qu'on te demande de faire, ou pourquoi tu penses qu'on te demande de faire ci ou de faire ça. C'est-à-dire de solliciter des élèves sur un... Non pas sur un registre, enfin, on peut appeler ça un registre méta, mais moi je préfère appeler ça un registre second. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est pas de la métacognition au sens d'une métacognition en dehors d'enjeux d'apprentissage, qui est parfois, ce qu'on voit aussi parfois, du apprendre à apprendre, dénué de contenu d'apprentissage. Ou des conseils méthodologiques qui sont des peignes pour les chauves. Voilà. Du type souligner les mots importants dans un texte. Mais comment on sait que c'est important? Ça, c'est pas des conseils méthodologiques. Ça. Pour apprendre une leçon, il faut souligner les mots importants dans la leçon. D'accord. Les mots importants, et évidemment, les élèves les plus en difficulté soulignent les mots les plus longs. Sauf si c'est une leçon de maths, c'est parfois « et » qui est le plus important. Et c'est... Donc, vous voyez, c'est ce type de guidage, de cadrage, qui n'est pas un cadrage par suppléance, qui fait à la place d'eux, mais qui est un cadrage par sollicitation d'un pas de côté, ou un cadrage par retour réflexif, ou un cadrage par comparaison de type de tâche. Voilà. Par exemple, une des tâches, je peux prendre un exemple très ancien, un travail très ancien qu'on avait fait, où dans une classe de ZEP de CM2 à La Courneuve, donc une ZEP quand même pas mal, les enseignantes nous disaient, voilà, en maths, pour faciliter la tâche aux élèves, on leur donne des énoncés de problèmes qui sont, on a un bouquin qui s'appelle 1200 problèmes, qui était un très très vieux bouquin, et on leur donne les énoncés, les problèmes qui sont les plus proches de ce qu'ils savent faire. Alors, savent faire au sens les courses, la cuisine, etc. Ce qui est un contresens radical sur les mathématiques. Et on avait travaillé avec ces enseignantes-là à monter une séquence où on donnait aux élèves de CM2 une trentaine... Vous voyez, dans cette contresens sur les mathématiques, j'y vais un peu à la serpe là, il y a une confusion entre problème et énoncé de problème. Et le bouquin entretient, parce qu'il n'y a pas 1200 problèmes dans le bouquin, il y a 1200 énoncés de problème qui se ramènent peut-être à 200 classes de problèmes. Donc, on a fait travailler avec les enseignants très rapidement et qui, très rapidement, on a conceptualisé avec elles cette différence entre problème et non-sé de problème. Et on s'est demandé quand est-ce que les élèves sont confrontés à cette question-là. Quand est-ce qu'ils construisent que la différence entre problème et non-sé de problème. Eh bien, dans la plupart des classes, comme les élèves sont confrontés à un problème après l'autre, et en ayant à les résoudre, à les faire, comme ils disent, ils ne sont jamais confrontés à cette tâche-là. Et bien, on pouvait monter, on a monté une séquence alors, qui n'a pas fait des miracles, mais qui a été quand même très intéressante. On a donné aux élèves suffisamment d'énoncés de problèmes pour qu'ils ne soient pas tentés de les résoudre, ce qui les désarçonne. Et ce jour-là, ils disent, mes maîtresses, t'es folle, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Et on leur demande de les classer. Et l'activité de classement, l'activité de comparaison, est une activité qu'on peut solliciter de la part des élèves. Et évidemment, les premiers critères de comparaison, c'est ceux que mobilisaient les enseignantes, supposés faciliter la tâche aux élèves. Alors, les courses, les cassettes de magnétoscope, etc., à l'époque. Et puis, si on leur demande d'en trouver d'autres, ils vous trouvent des critères qui tiennent à la différence, à construire des classes de problèmes et à ranger des énoncés de problèmes différents dans une même classe de problèmes. Et là, ils ont fait des maths, ils n'ont pas fait un seul calcul. Oui, c'est des choses comme ça, je crois, que, sur lesquelles on peut dire. Mais vous voyez, dans l'exemple que je prends, cette séquence, on l'a montée ensemble. C'est pas, moi, je pense que le travail des chercheurs, c'est d'être vigilant et éventuellement de participer à des chantiers collectifs. Mais c'est surtout pas, moi, je, y compris parce que nous, quand on regarde des classes, on regarde ce qui nous intéresse. Et comme on est des obsessionnels de l'inégalité d'apprentissage, il n'y a que ça qu'on regarde. Mais l'enseignant, il a des tas d'autres choses à gérer dans la classe. Donc moi, on n'est pas du tout dans une logique de bonne pratique où les chercheurs seraient en mesure de dire quelles seraient les bonnes pratiques, voire de prescrire les bonnes pratiques. Ça, moi, je me fie comme la peste de ce type de posture, parce qu'y compris, elle est très politiquement aujourd'hui développée. Et je crois qu'il faut ouvrir les chantiers. Mais si on fait ça, je pense qu'on a fait notre boulot de chercheur. Et moi, je ne suis pas formateur d'enseignants. Il m'arrive d'intervenir dans les formations d'enseignants, mais il y a un chantier collectif sur le travail de recherche qu'on fait est pertinent pour la formation, pour l'activité enseignante. Tout en disant, voilà, quand je dis que la question des bonnes pratiques, c'est que je pense ce qu'on observe ne relève pas simplement de pratiques. On observe des pratiques, mais qui sont déterminées par autre chose que les configurations personnelles des enseignants. Des contextes d'exercice, des conceptions de l'enfance aujourd'hui, ou de cette espèce de vulgate de pédagogie active que j'évoquais tout à l'heure, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'éducation nouvelle. Dire les élèves doivent être actifs pour apprendre, ce n'est pas ni du Piaget, ni du Vygotsky, ni du Vallon, ni du... Oui, donc c'est ces choses-là, je crois, qui sont importantes. Mais je suis trop bavard.
Oui. Concernant la question posée par le collègue, je pense qu'on est là pour discuter. Il y a ceux qui cherchent, il y a ceux qui donnent des conseils. Bon, on peut essayer d'explorer des pistes. Il me semble que on pourrait aborder des réponses sous l'angle des pratiques professionnelles, ce qui n'est pas votre domaine, j'entends bien, au sens où même s'il n'y a pas de normes de pratique, il y a quelques recommandations qu'on peut adresser aux enseignants. La première, c'est déjà d'avoir une posture qui consiste à s'interroger sur la non-compréhension des élèves, la non-compréhension des consignes. Et ce n'est pas évident que tous les enseignants, en particulier les enseignants débutants, se posent ce genre de questions. Ça me fait penser à une stagiaire qui disait, il me disait, je ne comprends pas pourquoi les élèves ne comprennent pas. D'accord ? Et ça, c'est déjà une première question à se poser. Pourquoi les élèves ne comprennent pas ce que je dis quand je transmets une consigne, quand je donne une consigne. Et on se rend compte aussi que du primaire jusqu'au secondaire, la non-compréhension des élèves est particulièrement dérangeante pour les enseignants. Les enseignants du secondaire, pour eux, si les élèves ne comprennent pas, c'est qu'ils ne sont pas à leur place. Donc, ils ne se posent pas ce genre de questions. Pour eux, les élèves devraient comprendre. Et je crois que, comme geste professionnel, il peut y avoir deux réponses. C'est la reformulation de la consigne. Ce n'est pas, un geste auquel les enseignants sont toujours particulièrement attentifs, et en particulier ceux de la maternelle, parce que c'est vrai que il y a des questions de langage, il y a des questions de formulation, il y a des différences de culture, d'accord, et à tous les niveaux. Et quand j'entends culture, il y a des cultures sociales, il y a des cultures ethniques, et je le constate en particulier pour des enseignants qui viennent de l'Hexagone et qui enseignent dans des classes primaires de mon académie, et ils pensent que les enfants des milieux ruraux ou même des enfants de l'académie connaissent des formulations, du lexique que eux ils possèdent, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et puis, en dehors de l'aspect des consignes, il y a l'enrôlement même des élèves dans des tâches qui n'est pas suffisamment contrôlé par les enseignants. Ils pensent qu'une fois qu'ils ont dit aux élèves de se mettre au travail, que ça va de soi. Alors, vous avez parlé effectivement de guidage. Quoique c'est une question particulièrement importante, les élèves ne se mettent pas au travail comme ça, une fois qu'on leur a dit de faire ceci. C'est tout un processus. On voit que de l'un à l'autre, qu'il peut y avoir des gestes, des attitudes, une manière d'appréhender, d'aborder les tâches, des manières tout à fait différentes. Et ces manières-là, il faut les analyser selon tel ou tel élève. Le dernier point que je voulais aborder concernant votre exposé, c'est l'enseignement spécialisé. Je crois que dans ce domaine-là, on ne peut pas donner des tâches identiques à tous les élèves dans certaines classes, en particulier comme les classes d'inclusion scolaire qui accueillent les élèves ayant des troubles cognitifs ou des déficiences intellectuelles. Malheureusement, la classe est bien entendu toujours une classe, mais s'agissant donc des tâches, on est bien obligé d'ajuster, pour ne pas dire adapter, les tâches à des difficultés spécifiques des élèves.
On va sans doute clore ça, mais juste une demi-phrase pour vous signaler que ce qu'on a prévu cet après-midi, c'est de travailler concrètement ces questions-là à notre niveau, au niveau d'adultes lettrés. Qu'est-ce qui se passe lorsque on se cogne un problème qui a rapport avec le savoir? Qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce qui nous engage? Qu'est-ce qui nous met en difficulté? Jean-Yves a cité le GFN ce matin. Ça sera une manière d'illustrer un certain nombre de choses là-dessus. Qu'est-ce qui se passe pour nous lorsqu'on est confronté à un savoir qui résiste dans une situation scolaire?
Est-ce que je peux dire juste un petit mot, Patrick? Parce que dans les choses que j'ai présentées, je veux dire, on a parfois des élèves qui comprennent parfaitement les consignes qu'on leur donne. Je veux dire, l'élève qui découpe, qui entasse, etc., elle comprend parfaitement les consignes. Ce qu'elle comprend pas, c'est ce qu'on lui dit pas. La question, c'est pas simplement bien sûr la question de la formulation, de la reformulation des consignes, une question importante, mais la question c'est ce que l'on pose, c'est ce que Bernstein appelait la pédagogie invisible ou la pédagogie de l'abstention pédagogique. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison que les élèves ne comprennent ce sur quoi on n'attire pas leur attention, y compris parce que notre propre attention n'est pas attirée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois que ces questions-là, puisqu'on est dans un séminaire sur l'éducation prioritaire, je crois quand même qu'il faut dire que l'ensemble des... Enfin, on est quand même maintenant assez nombreux, aussi bien au niveau de la recherche qu'au niveau de l'inspection générale, pour dire que c'est alors que le pari des ZEP, c'est enseigner mieux, autrement, plus, etc., pour que les élèves apprennent mieux, ces questions qu'on appelle sociodidactiques n'ont jamais été au cœur de du pilotage de la politique ZEP. Parfois même, Anne Armand le dit de manière très très... On a des empilements de dispositifs, on a des empilements de choses comme ça, mais ouvrir un chantier collectif sur ces choses-là, et non pas pour valoriser des supposées bonnes pratiques ou des pratiques inaugurables par les ministres ou les représentants de conseils généraux de collectivités territoriales ou les financeurs divers, c'est quelque chose qu'on a peu eu la possibilité de faire entendre dans la régulation politique. Et ça, je crois que c'est quand même très très important, et d'autant plus qu'on est aujourd'hui dans une conjoncture où je ne sais pas très bien si l'éducation prioritaire dont on parle aujourd'hui a grand-chose à voir avec l'éducation prioritaire, j'ai failli dire propriétaire, ce qui est sans doute un beau lapsus, prioritaire, ou l'esprit de l'éducation prioritaire en 1980, voilà. Quand vous lisez dans la circulaire de rentrée que les internats d'excellence sont l'avant-garde de la politique d'éducation prioritaire, bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'était l'éducation prioritaire de 80.
Juste si je peux tenter une réponse à la question pour la personne qui enseigne en maternelle. En fait, moi, je vois deux choses dans l'activité qui a été proposée. C'est une activité d'entraînement qui est liée au découpage et une activité qui va être effectivement plus de haut niveau, qui est liée à la reconnaissance d'une phrase. Et du coup, si l'activité est donnée en autonomie, elle va effectivement être plutôt du registre de l'entraînement que des apprentissages réels. Donc soit on donne à découper et on s'entraîne à découper, ce qui peut être un apprentissage pour certains à certains moments, soit on va viser à travailler sur la phrase, et dans ce cas-là, on enlève le découpage, la maîtresse ou l'enseignante prend en charge le découpage pour que l'enfant se centre sur la tâche de haut niveau et pas sur le découpage.
Par exemple.
Ça peut être une... En fait, chez les jeunes enseignants, en fait, ils veulent viser beaucoup de choses à la fois, et ils ont du mal à se centrer sur un objectif de travail qui est lié vraiment au savoir.
Tout à fait.
Et pour prolonger la remarque sur l'implicite, j'étais en visite la semaine dernière dans une classe où, après une demi-heure de travail dans le domaine de la grammaire, sur l'identification du groupe sujet, il y avait un splendide programme affiché au tableau, et une petite fille, à la fin de la séance, dit « Mais maîtresse, au fait, on n'a pas fait la grammaire ». Voilà, donc on peut se dire que ce qu'elle a verbalisé, elle, au-delà même des différentes étapes dans la séance d'apprentissage, c'est le passage entre les différents domaines disciplinaires qui est clair pour l'enseignant, mais qui est loin d'être clair pour les élèves. Voilà.